Texte liberticide pour les uns, texte apportant une juste rémunération des auteurs pour les autres, la bagarre autour du projet de directive européenne qui vise à imposer des droits d'auteur sur le net bat son plein. Jeudi, en séance, les députés voteront sur ce projet de directive, objectif que ces dispositions soient applicables en 2019. Un texte qui instaure trois principes protecteurs pour les créateurs européens de contenu, un droit voisin pour les éditeurs de presse, on va voir ce que cela regroupe, une présomption de responsabilité pour les plateformes numériques et enfin les auteurs qui pourraient avoir droit à une rémunération pour l'exploitation de leurs œuvres en ligne. Les enjeux sont énormes, le débat va au-delà des clivages politiques, les partisans d'une liberté totale sur le net et les GAFA sont vent debout contre ces propositions. Tension autour finalement de deux questions toutes simples. Peut-on, au nom de la liberté du net, diffuser une œuvre sans rémunérer son auteur ? Faut-il obliger les plateformes numériques à rémunérer les éditeurs de presse, les créateurs, pour leur production en ligne ? Vous êtes sur France Inter, c'est le téléphone sonne Europe. On est en direct du Parlement européen. Vos questions jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne Europe. Stéphane Leneuf.
Dans un instant, 01 45 24 7000, on retrouvera bien sûr nos auditeurs. Vous pouvez nous appeler pour répondre à vos questions ce soir et lancer le débat. Virginie Rosière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes du groupe socialiste ici au Parlement européen. Jean-Marie Cavada, bonsoir.
Bonsoir à vous tous.
Du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Et Pascal Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Député Europe Écologie Les Verts. Avant d'aller au standard pour répondre à nos questions, questions de nos auditeurs, une question à vous trois. Peut-être que c'est vous, Virginie Rosière, qui allez ouvrir ce débat. Pourquoi cette proposition de directive fait-elle tant de débats entre les partisans, les libertaires, les partisans de la liberté totale sur Internet et ceux qui ont envie de rémunérer finalement les droits d'auteur.
Vous avez assez justement souligné qu'on avait une alliance assez surprenante entre effectivement des formes d'utopie libertaire du net et puis les représentants des GAFA qui n'ont vraiment pas ménagé leurs efforts pour attiser une campagne de communication en partie mensongère et pour faire monter les peurs autour de ce texte. Donc effectivement, du coup, ça crée beaucoup d'émotions. Et on perd de vue l'objectif principal de ce texte qui est avant tout de dire que ce qui s'applique dans le monde réel doit aussi s'appliquer sur Internet et que à partir du moment où vous êtes un intermédiaire qui dégage des profits en diffusant des œuvres culturelles, bah vous devez, comme c'est le cas pour tout le reste des diffusions, rémunérer l'auteur de ces œuvres.
Pascal Durand, vous n'êtes pas tout à fait sur cette ligne.
Non, parce que la manière effectivement de présenter ça de manière, j'allais dire, un peu binaire ou manichéenne, en disant il y aurait d'un côté ceux qui veulent pas rémunérer les auteurs et puis les autres qui seraient là pour au contraire défendre les auteurs, n'est absolument pas conforme à ce qui se passe. La difficulté que nous avons, c'est que Internet est un monde nouveau et c'est un mode d'échange nouveau. Et dans ce mode d'échange, il y a un certain nombre de gens, notamment ceux qui sont issus de, on va dire, d'un monde qui était avant Internet, essayent de plaquer les vieilles règles sur le fonctionnement d'Internet. Et pour faire cela, ils passent par des logiques qui sont des logiques de contrôle, de censure, de verrouillage de l'activité d'Internet. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous trouvez effectivement, par exemple, les créateurs de Wikipédia, vous trouvez un grand nombre de défenseurs des logiciels libres ou autres qui se dressent non pas contre le principe de rémunération des auteurs, non pas contre le principe de trouver un équilibre, mais simplement contre les propositions qui sont faites là, qui sont des propositions qui ont vocation à filtrer le fonctionnement d'Internet et donc de porter atteinte. Non, mais bien sûr que c'est vrai.
Alors, on laisse Pascal Durand. Voilà. Le débat est très chaud ici au Parlement européen.
Non, mais il va être. Il n'y a pas de raison qu'il soit chaud. On va essayer d'être objectif. La seule chose qu'il ne faut pas. Et on se connaît suffisamment tous les trois, je crois, pour ne pas se faire de mauvais procès, c'est-à-dire le procès de vous représenter les uns ou les autres. Non. Je dis simplement qu'il y a un débat entre nous. Quelles sont les bonnes méthodes pour faire en sorte qu'on maintienne la liberté sur Internet, on maintienne la possibilité, notamment pour les jeunes auteurs, d'arriver à se faire connaître, et puis en même temps, qu'on assure un fonctionnement qui soit un fonctionnement de rémunération normale des artistes.
Jean-Marie Cavada.
Oh, il faut mettre les choses à plat tout de suite. Les mots évoqués par Pascal Durand posent une question de fond qui est en effet un débat de liberté, mais malheureusement, cette question, elle est armée de, je dirais, de propagande ou de mensonge, parce que il n'est pas question de censure nulle part. Il n'est pas question d'obligation nulle part. Vous avez cité Wikipédia. Wikipédia est protégée, exclue, n'est pas dans le texte. Par conséquent, la liberté est totale. D'ailleurs, le contrôleur des données personnelles, à qui vous aviez demandé son avis, c'est pas moi qui l'ai demandé, eh bien, vient de dire que, en gros, il n'y a aucune atteinte à la liberté. Par conséquent, il faut sortir de cette propagande pour atterrir sur quelque chose d'assez simple. Monde nouveau ou monde ancien, je considère que l'esprit, la création, l'intelligence, tout ce qui fait que nous avons tiré nos idées et assis la vie démocratique dessus, c'est bien plus important que des tuyaux, que des algorithmes et que même des mathématiciens. Par conséquent, ceci doit primer. Et par ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi les gens qui sont tant attachés à la liberté et à la protection des données personnelles le sont si peu à la protection des données culturelles, d'autant plus que les données personnelles ne font pas vivre forcément les gens, mais les données culturelles, il y a 7 200 000 personnes en Europe qui travaillent et vivent de ces rémunérations. Et puis, une troisième et dernière chose, pour quelle raison le commerce d'Internet, car ceci ne vise que les plateformes actives qui font du commerce, rien d'autre. Vous pouvez envoyer des mails à votre grand-mère, et tout ce que, vous ne payerez rien. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi ces plateformes actives auraient le droit d'exercer un commerce dont ils volent la matière avec laquelle ils s'enrichissent et en plus ils ne payent pas d'impôts. Dans quel monde est-on ? Il faut mettre un peu d'ordre. Ça n'est pas un texte anti-GAFA, c'est un texte de régulation normale de leur commerce.
Alors justement, ce texte Virginie Rosière, très rapidement, synthétisez-nous un petit peu les propositions qui vont être mises au vote jeudi ici au Parlement européen, ce que propose l'Europe en quelque sorte.
Il faut effectivement parler de ce qu'il y a dans le texte et pas de description totalement falassieuse. Et
alors parlons de ce qu'il y a dans le texte.
Justement, on va parler de ce qu'il y a dans le texte. Ce qu'il y a dans le texte, ça dit que quand vous avez une activité commerciale de médiatisation des œuvres, et de la production culturelle et créatrice.
Je fais de la vidéo, je la mets sur Internet. Hein, on va
vous
être
êtes chanteur,
simple.
Vous êtes compositeur, vous êtes réalisateur, vous êtes journaliste, vous êtes éditeur de presse, vous publiez, vous mettez vos œuvres sur Internet. Et quand c'est repris par des grandes plateformes qui dégagent des bénéfices, encore une fois, dans un but lucratif, commercial, en médiatisant ces œuvres, ben, on demande que ces plateformes, qui engrangent des bénéfices et qui aujourd'hui ne reversent rien du tout à ceux qui produisent les contenus, les œuvres qui sont effectivement manipulées et qui servent à dégager de la valeur, qu'elles concluent des accords
pour
au travers de licences pour justement encadrer et assurer la rémunération. C'est ça qui figure dans le texte. Ça, c'est vraiment ce qu'on a, l'article 11 et l'article 13. L'article 11, c'est pour la presse. L'article 13, c'est plus généralement pour les plateformes. Et on a aussi introduit une nouvelle disposition pour s'assurer que ça aille vraiment jusqu'à l'artiste en disant on crée en plus un droit à rémunération pour les artistes, pour la diffusion de leurs œuvres sur Internet, dans l'univers numérique. Donc ce qui est proposé et ce qui est écrit, encore une fois, c'est dire qu'il faut que la diffusion des œuvres se poursuive, mais qu'elle soit faite au travers d'accords qui permettent et d'une coopération entre les plateformes et les artistes
les
qui permettent justement de prévoir la rémunération de la culture.
Pascal Durand, vous avez employé un mot tout à l'heure assez fort, c'est le mot de censure. Où est-ce qu'il y a de la censure, selon vous, à vouloir rémunérer finalement des auteurs ?
Mon mot est beaucoup moins fort que celui de Jean-Marie Cavada qui parle de vol. Comme si actuellement sur les plateformes c'était des éléments
Pascal
volés.
Durand.
Ça n'est pas vrai du tout.
Alors Pascal Durand, laissons Pascal Durand s'exprimer.
C'est-à-dire que le problème, c'est que essayer d'avoir un débat qui soit un débat raisonnable quand effectivement on utilise les mots de vol ou c'est le problème. C'est que un certain nombre de politiques, mais pas que de politiques, ne veulent pas intégrer le fonctionnement d'Internet, notamment, et des hyperliens. Ne veulent pas intégrer le fait, par exemple...
Les hyperliens ne sont pas
le
dedans.
Attendez, on va en parler.
Il ne faut pas laisser les mots créer un doute, s'il
vous plaît. On va en parler.
Les hyperliens ne sont pas dans
totalement,
le texte. Ils sont protégés normalement.
Non, ça n'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de définition des hyperliens, ça n'est pas vrai. Écoutez, on va essayer encore une fois de rester raisonnable. Donc, n'utilisez pas les termes. L'hyperlien n'est pas défini. En l'état, ça n'est pas défini, donc on ne sait pas ce qui va être autorisé ou pas autorisé. On sait même qu'il a fallu se battre parce que les agences de presse risquaient de perdre le droit de pouvoir effectivement utiliser un certain nombre d'informations
sur Internet.
Alors,
qu'est-ce qui vous inquiète dans ce texte ?
Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de porter atteinte à travers cette directive au fonctionnement même d'Internet. C'est-à-dire que le référencement sur Internet, le fait de permettre l'accès à des centaines de millions d'internautes et un accès qui est un accès ouvert, le fait, c'est ça qui a permis de se développer. C'est ça qui a permis à nombre d'artistes d'être connus, d'arriver à se faire reconnaître, etc. Les licences existent déjà. La possibilité de faire enlever des contenus qui auraient été contrefaits ou qui ne correspondraient pas à ce que la loi autorise, c'est-à-dire les courtes citations ou le renvoi direct, existe déjà.
Bah, et ça marche contre,
très bien.
On le répète.
Non, là, ce qui est en train d'être fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est l'inverse.
Je n'accepte c'est, pas que dans
que vous
un
acceptiez
média,
ou pas, Monsieur Cavada.
Fausses informations.
Mais ça, on est en train de parler d'autre chose. Là, franchement, on est en train de parler d'un autre sujet. On est en train de demander maintenant à ceux qui vont diffuser, non pas simplement d'avoir à retirer ce qui est le cas actuellement et ce qui fonctionne. Encore une fois, quand un contenu a été volé ou quand un artiste ne veut pas être repris sur YouTube, il le fait retirer. On va là maintenant inverser la machine. Et pourquoi on parle de censure ? Tout simplement parce qu'on va mettre, on va faire peser sur tous les diffuseurs une obligation. C'est-à-dire qu'ils vont devoir en amont vérifier que les droits ont été cédés. Ce qui veut dire que demain, il n'y aura plus que ceux qui ont signé des contrats de licence, par exemple les plus gros, ceux qui passent par la SACEM ou autres, qui auront effectivement validé. C'est ça qu'attend la SACEM. Mais ça n'est évidemment pas la possibilité pour les plus petits artistes et pour ceux qui ne passent pas par ces réseaux-là de pouvoir être diffusés. Ils vont donc être bloqués en amont et ils vont être bloqués par des machines. Et c'est bien pour ça qu'on parle de filtres.
Mais vous avez une alors, machine
ouf. La machine, elle est par exemple, notamment, ben, c'est ce que vous demandez.
Virginie Rosière répond à Pascal Durand.
Non, ce qu'on demande, effectivement, c'est que les plateformes soient responsables de leurs agissements
et
sur Internet. Et qu'elles soient responsables. Et que justement, on demande simplement qu'elles aillent voir les acteurs de la culture et qu'elles concluent des accords et qu'elles s'engagent à les rémunérer. Aujourd'hui, tu disais qu'aujourd'hui, c'était possible. Les accords de licence, c'est possible. C'est possible quand les plateformes le veulent bien. Rien ne les y oblige. Ce qu'on dit demain, c'est qu'elles ne peuvent pas faire, elles ne peuvent pas poursuivre la diffusion sans avoir conclu d'accord avec les acteurs de la culture dont elles diffusent les œuvres. Voilà. Et le but, c'est qu'elles concluent ces accords et qu'elles continuent la diffusion. Tout le monde est demandeur. Les artistes sont demandeurs de continuer la diffusion. Simplement, ils disent arrêtez de diffuser sans nous payer. Quand vous achetez un produit dans une grande surface, vous attendez bien que la grande surface, elle ait rémunéré le producteur. Elle ne le fait pas forcément. Mais c'est un peu comme si on vous disait, demain, on va essayer d'obliger les grandes surfaces à payer mieux les agriculteurs et que vous vous dites, à partir de demain, du coup, il n'y aura plus de légumes dans les grandes surfaces.
Alors, la crainte exprimée tout à l'heure par Pascal Durand, c'était effectivement que des algorithmes, finalement, mettent une barrière à des jeunes créateurs qui ont envie, effectivement, de mettre leurs vidéos, de mettre leurs chansons, de mettre leurs créations sur Internet.
On dit explicitement dans la directive que si ce sont les auteurs qui sont à l'origine de la publication, ils sont hors du champ d'application de la directive.
On ne peut pas savoir, parce que sur Internet... Mais sur Internet, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ne pas tenir compte de la réalité du fonctionnement d'Internet. Il y a des données qui arrivent de partout. Il y a des photographies qui sont partagées, il y a des morceaux de musique, il y a des concerts, il y a énormément de créations qui sont partagées et il y a énormément d'auteurs, notamment, qui veulent que ça soit partagé et que ça soit partagé librement. La question qu'il va y avoir demain, c'est que comme on ne saura pas et que l'obligation et la charge de la preuve est inversée, comme les plateformes auront la responsabilité d'être sûres que ces œuvres seront libres de droit, pour tous ceux pour lesquels il n'y aura pas le gros contrat de licence, donc en fait pour les plus gros, évidemment ça sera bloqué, parce que les petits ne vont pas être en mesure de pouvoir signer des contrats de licence systématiquement avec Google ou avec Yahoo. Donc qu'est-ce qu'on va arriver ? Ça va arriver à quoi ? Ça va arriver à exactement ce que veut la SACEM et un certain nombre de gros acteurs du marché, c'est-à-dire ou quelques gros éditeurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent avoir le même monopole. En réalité, ils veulent imposer à ce que ces plateformes ne diffusent
Le monopole des plateformes qui gagnent un argent fou et qui ne payent pas leurs créateurs, ça vous gêne pas ?
Qui ne paye pas les créateurs ? D'abord, ils sont rémunérés. Le fait que ils sont rémunérés, mais pas assez. Et la difficulté, c'est que cette directive ne prévoit aucune modalité de rémunération des auteurs, c'est un mensonge et honteux, ce que vous dites. Alors, il n'y a aucune modalité.
Je voudrais qu'on revienne. Je voudrais qu'on revienne aux auditeurs. J'ai des questions ici et des remarques sur Internet, notamment une remarque de Marie. Je trouve le terme de vol exagéré. Un produit culturel téléchargé illégalement privé prive certes l'auteur d'une juste rétribution, mais il n'est pas privé de son œuvre. C'est la réflexion de Marie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Marie, Jean-Marie Cavada?
Alors moi, je dis à cette dame qu'elle a raison s'il s'agit en effet de quelque chose qui concerne les privés. Le texte en question ne concerne encore une fois que les plateformes actives. Mettons de l'ordre dans cette discussion. Les plateformes actives, c'est celles qui prennent un produit, une création, qui, grâce au nombre de clics qu'elles emmagasinent, prennent sur le marché de la publicité de quoi gagner l'autre vie et gagner leur vie, on sait jusqu'à combien, et que dans ces conditions-là, elles doivent rémunérer les créateurs. Ce sont les plateformes actives, c'est-à-dire le commerce professionnel des données.
Par exemple, Wikipédia n'est pas concerné.
Non.
Très bien, c'est une question de Lucas sur Internet.
Oui, explicitement, voilà, le texte dit que Wikipédia n'est pas concerné.
On ne sait pas dans quelle mesure les liens qui seront... Mais c'est là où c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on vous affirme. On vous affirme que Wikipédia n'est pas concerné. Et là, j'ai Virginie Rosière et Jean-Marie Cavada qui l'affirment. Le fondateur de Wikipédia dit « Moi, j'ai un vrai risque et j'ai un vrai danger. » Parce que dans les articles Wikipédia, il y a des liens, il y a des hyperliens, il y a des références à des artistes.
Mais les hyperliens ne sont pas concernés.
Mais ça n'est pas vrai en l'État.
Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait
pourquoi
autour de
cette
table?
Pourquoi voulez-vous que le président de Wikipédia, que le rapporteur spécial des Nations Unies pour les libertés, viennent dire « Attention, cette directive est dangereuse » parce qu'elle n'est pas suffisamment précise et parce que par ailleurs, il va y avoir des blocages de contenu. Plein d'articles dans Wikipédia ont des références et ont des citations. En l'État, on ne sait pas ce qui se passe.
On va être très concret.
Alors, parce qu'au bout d'un moment, on dit tellement de choses. Moi, je veux qu'on parte du texte aussi, parce qu'on peut toujours parler de choses qui n'existent pas.
Alors, Virginie Rosière, vous répondez à Pascal Durand sur cette problématique des hyperliens, effectivement.
Effectivement. Donc, on a vraiment une définition qui est caricaturale pour ne pas dire plus des choses.
Alors, répondez
sur la question de Wikipédia. Le champ d'application du texte qui définit donc... Les services l'anglais, donc il me faut le temps de traduire en simultané. Hein. Les fournisseurs de services de partage en ligne. On indique que les services qui agissent dans un objectif non commercial, comme les encyclopédies en ligne et les fournisseurs de services en ligne. Il y a toute une liste, mais donc dont les encyclopédies en ligne sont exclus du champ d'application, ne rentrent pas dans le champ d'application de cette directive. Donc je pense pas, je sais pas comment on peut être plus clair hein, en l'occurrence. Et donc pour revenir sur le côté caricatural de Pascal qui nous explique que derrière tout ça c'est la SACEM et qu'après tout le monde d'Internet est contre. On a quand même une tribune de 70 artistes qui est passée. Ah bah si, tu nous expliques que c'est ce que ça veut et que alors non seulement on a une tribune de plusieurs artistes qui a été signée qui est parue dans le Monde. J'étais très touché de voir que Ennio Morricone qui est pour moi une des musiques des grands films de mon enfance était aussi favorable. Donc je le dis parce que là, ça pour moi ça a une résonance particulière pour moi. Et quand Pascal dit que on n'a pas de garantie sur la rémunération des auteurs, c'est faux justement. Ça a été aussi un combat de certains groupes politiques, dont le mien, de demander, de s'assurer justement que ça aille jusqu'aux artistes. Parce que c'est souvent ce qu'on fait, on oppose les acteurs de la culture et les artistes, donc pour s'assurer que ça aille jusqu'aux artistes avec l'introduction d'un droit à rémunération. Et j'ajouterais que s'agissant de grands acteurs qui se mobilisent, faut quand même voir aussi ce qui est en train de se passer depuis plusieurs semaines dans ce Parlement. Parce qu'on nous explique que tout ça, c'est uniquement pour un Internet du partage, de la liberté. En fait, tout ce qui est non commercial et tout ce qui est partage d'informations, que ce soit pour les plateformes de développement de logiciels libres, par exemple, est exclu du champ d'application. On vise uniquement un Internet commercial, qui est celui des grandes plateformes. Et moi, ce qui me fait dire qu'on touche la cible, c'est que depuis plusieurs semaines, on a un lobbying d'une intensité que je n'avais encore jamais vue dans ce Parlement. Avec des camions financés par les GAFA qui tournent devant le Parlement à Bruxelles le jour du vote, avec des grands messages pour expliquer aux parlementaires qu'ils vont tuer Internet si jamais ils votent, avec des événements qui sont financés de manière opaque par les géants du net américains, avec des campagnes de spam massifs, j'en suis à plus de 40 000 mails en quelques jours, avec du phoning,
la
évidemment,
force de frappe des GAFA
avec Google qui au passage finance Wikipédia.
Je voudrais qu'on aille au standard.
Qui envoie aussi des messages à tous les éditeurs de presse.
Pascal Durand, attendez, je voudrais qu'on aille au standard parce qu'il y a des appels, Frédéric notamment qui nous appelle de Lille, qui a une grosse inquiétude, Frédéric, sur Wikipédia. On y a déjà en partie répondu, mais vous avez d'autres questions. Frédéric, on vous écoute.
Oui, alors moi je suis très très surpris de ce débat parce que des sites comme Wikipédia, c'est des licences libres. c'est des licences qui existent dans le logiciel depuis des années, Creative Commons, LGPL, etc., qui font que globalement, je ne vois pas où se pose le problème vis-à-vis de Wikipédia. Les auteurs de Wikipédia ont donné leurs droits à la communauté, ils sont utilisables librement. Par contre, effectivement, un journaliste ne l'a pas fait. Et ça me gêne, dans les discours de M. Durand, d'entendre assimiler Wikipédia et les sites de presse sur lesquels les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. C'est, effectivement, sur Wikipédia, il ne devrait y avoir aucun problème, d'après ma compréhension, vu que déjà, les droits ont été alloués à la communauté. Est-ce qu'on peut Merci. Développer ça ?
Alors, oui, bien sûr, mais alors Jean-Marie Cadin vous répond, et ensuite Pascal Durand.
Vous avez raison, monsieur, pour une raison simple, c'est que Wikipédia n'est pas couvert par ce texte. Et c'est, il est dans les exceptions, il y en a de trois ordres. Il y a le monde des bibliothèques, le monde de la recherche et le monde, je dirais, de la, du transfert sur des supports nouveaux des éléments de la culture. Dès l'instant, c'est simple, dès l'instant qu'il ne s'agit pas d'activités commerciales par des plateformes actives, et seulement celle-ci, dès l'instant que ce ne sont pas elles, rien n'est touché à la liberté. Donc ça suffit maintenant, cette propagande. Deuxièmement, je voudrais, s'il vous plaît, Stéphane Leneuve, que dans quelques instants, nous parlions de l'énorme danger que les pratiques actuelles des GAFA font peser sur la presse. Je ne veux pas vivre dans une démocratie où la presse est entre les mains des algorithmes. Et je veux qu'on en parle, s'il vous plaît.
Ce sont les fameux droits voisins. Alors, on va y revenir, effectivement. Voisins. Pascal Durand,
on va venir sur les droits voisins. Et simplement, alors on va essayer de répondre, là aussi, de manière raisonnable sur la question du lobbying. Virginie dit qu'elle a été lobbyée ou qu'elle a reçu un certain nombre d'emails. C'est vrai, tous. Ce sont les mêmes. On a reçu
000,
les mêmes.
15 000.
On a
énorme,
reçu
énorme,
les mêmes.
Énorme
Moi,
lobbying,
peux vous dire,
effectivement.
Je peux vous dire que tous ceux
mais
qui sont venus...
Mais vous êtes Pascal pour la transparence. Attendez, alors dénoncez ça une fois pour toutes.
Est-ce que je peux finir?
Oui, mais répondez à ma question.
Est-ce
on ne peut pas avoir deux attitudes.
Est-ce que
vous
je
êtes pour la
vous
transparence, dénoncez... Ce lobbying obscur, plein de fric, qui a essayé de nous envahir.
C'est de voir, un représentant du groupe,
un représentant
du groupe libéral venir expliquer à un écologiste qu'on défend.
Mais
les lobbyistes, ça prêterait à sourire. La réalité, elle n'est pas là. Non, mais d'être sensible au lobbyisme.
Il y a eu énormément de lobbying.
Oui, moi, ce que je peux vous dire, que ceux qui sont revenus. Oui, mais moi, ce que je vais vous dire, qui est venu faire le lobbying dans mon bureau. Ce sont les éditeurs et ce sont les patrons de presse.
Alors, tout le monde a
D'accord
fait du lobbying.
Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
Mais il y a eu quand même...
C'est juste ça que je voulais dire.
Tout le monde a fait énormément de lobbying ici,
donc
mais
je voudrais
il faut reconnaître qu'il y a eu un énorme... Aussi, peut-être beaucoup plus
non,
de lobbying
Non, il y en a eu
un
beaucoup plus par Internet. Il y a eu par Internet, tout simplement, parce que c'est la réponse. Effectivement, c'est un certain nombre d'internautes qui se sont inquiétés du fonctionnement futur de l'Internet et qui donc ont utilisé Internet. Simplement, parce que je peux vous dire que le lobbying le physique, le lobbying qui coûte cher, le lobbying des rencontres, etc., moi je l'ai subi de la part, et je n'ai pas de problème avec ça, j'ai rencontré tout le monde. Donc je n'ai aucun problème.
Alors
avec
on ferme
ça.
Ce chapitre
donc,
du
on le
lobbying,
ferme, mais simplement
et on
question,
répond.
Il y a une vraie question, il y a une vraie différence, c'est que dans le cas des GAFA, dans à plusieurs reprises, ce lobbying
D'accord.
a été opaque.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a été dissimulé.
Ça c'est quoi
derrière,
ce qu'on a reçu
il
à
a
midi
été, il a été dissimulé c'est, derrière
alors,
des campagnes soi-disant indépendantes, soi-disant spontanées,
monsieur,
financées directement
monsieur
par
Leneuf, nous sommes en radio. Nous sommes en radio.
Après effectivement, il y a le lobbying terminé. Dans certains cas, il est transparent, dans d'autres
non. Non, alors ça c'est amusant parce que ça c'est ce que j'ai reçu comme tous les parlementaires ici, pendant que nous étions en vote à midi, quand on est revenu dans notre bureau, c'est-à-dire en notre absence et pendant que le bureau était vide, voilà ce que j'ai reçu.
Alors, expliquez aux auditeurs.
C'est un document pour nous expliquer qu'il faut voter, évidemment, comme le demandent M. Cavada et Mme Rosière dans le vote, j'ai pas de problème, avec Bolloré, TF1, je dis juste pour les Français parce que
alors,
j'ai
on
ça
va
partout.
Dire, on va dire un partout
et ça,
pour
ça
les lobbyistes.
Ça nous a été remis dans notre projet
de directive. Ils se cachent pas.
Ils se cachent parce que ils se
on
mettent
va dire
en
Pascal
en
Durand.
Petit.
On va dire Pascal
mais ça
Durand.
M'intéresse pas.
Un partout. Ce qui un partout
m'intéresse
sur
pas,
le
c'est
dossier de
Wikipédia.
Que l'on referme la question Wikipédia et on retournera au standard.
Ce qui m'intéresse et ça c'est le plus important, c'est la question pas simplement de Wikipédia, la plateforme Wikipédia. C'est l'intérêt pour les internautes, c'est évidemment la plateforme Wikipédia, mais c'est le contenu auquel on a accès à l'intérieur des articles.
Oui, on a compris le lien, les hyperliens,
eh ben oui,
pour
mais
les
si vous avez compris, Stéphane,
dehors,
si vous les... avez compris Stéphane Leneuf, et je ne doute pas une seconde que vous ayez compris, ça répond à une question qui n'a rien à voir, et c'est pour ça qu'on ne parle pas de la même chose. Vous parlez, M. Cavada, de la plateforme, et la plateforme Wikipédia est une chose. Moi, je parle de l'échange des informations, de l'échange des données, des liens, de ce que l'on télécharge, de ce que l'on
l'on veut faire partager. C'est ça le problème, c'est ça le danger. Ça n'est pas la plateforme, par ailleurs,
la définition,
mais je vous dis qu'au contraire, les articles qui sont dans Wikipédia, non, ça n'est pas la plateforme. C'est exactement comme si vous me dites, demain, Google est interdit de non. La question, elle n'est pas là. La question est, est-ce qu'on va pouvoir librement continuer à partager? La réponse est non en l'état. Et je vais même vous dire pourquoi. La définition de la plateforme commerciale, telle qu'elle est, vous pouvez me la donner? C'est quoi une plateforme commerciale?
Une plateforme commerciale, c'est une plateforme qui fait du commerce avec les informations ou avec le matériel culturel ou journalistique.
Quel type de commerce?
Et Pascal, l'article même c'est...
Je l'ai lu dans le journal,
quel type de commerce? Le commerce sur le marché publicitaire.
Jean-Marie Cavada, et après on ira au standard. Je voudrais que l'on n'oublie pas les auditeurs. On a Julien qui appelle le Champagnol. Julien, vous vouliez des précisions sur ces fameuses licences que pourrait passer effectivement Google avec... Des organismes comme la SACEM, par exemple. On vous écoute, Julien.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Petite remarque en passant, c'est dommage que le débat soit un petit peu inaudible. Voilà. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'on reproche spécifiquement. Alors, je prends aux plateformes commerciales, on est bien d'accord. Je prends l'exemple de Google, qui finalement ne stocke pas ou ne distribue pas, sauf sur des choses spécifiques payantes, type Google Books ou Google Music. Finalement, Google indexe des pages et fait des pointeurs vers ces pages, donc vers des ressources qui sont mises en ligne par d'autres personnes. J'aimerais qu'on m'explique un petit peu ce qu'on leur reproche en échange. Ils monétisent en fournissant de la publicité dans les résultats de recherche, admettons. Quelle est la différence en fait entre un reporter sur France Inter qui viendrait faire une chronique et qui parlerait de tel ou tel livre et qui ferait un pointeur chez l'éditeur? On parle systématiquement de pointeur. J'ai du mal à comprendre un petit peu où est le vol, parce que on parle finalement uniquement de mise en avant. Et mon parallèle avec France Inter, c'est dans le sens où France Inter passe également de la publicité pour monétiser son antenne. Voilà. Quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qu'on reproche à Google?
Virginie Rosière, Jean-Marie Cavada vous répond.
Alors, Google, c'est principalement sur le service de news, dans son rôle d'agrégateur de presse, c'est pas dans son rôle de moteur de recherche. Donc effectivement, et c'est plus la question autour du droit voisin des éditeurs de presse, parce que le gros de l'activité est justement ce rôle d'agrégateur de presse et 100% du contenu est celui de la presse. Par contre, on a toujours la possibilité d'avoir des exceptions sur des courtes citations, comme c'est le cas par exemple dans les émissions de radio, ça pose pas de problème. Et l'autre volet, c'est plutôt donc sur Google, plutôt sur son service YouTube, et où là on est plus sur la question du streaming. Il faut quand même voir que aujourd'hui en France, YouTube, c'est plus de 90% de la consommation de streaming, de musique en streaming en ligne, et c'est moins de 3% des revenus qui sont versés aux artistes. Dans le même temps, vous avez des entreprises européennes dont c'est aussi l'activité de fournir des services en streaming, comme Spotify ou Deezer, qui est une entreprise française au départ, qui elle rémunère par le biais d'accords de licence les auteurs, et qui sont mais qui donc du coup ont des marges potentielles bien moindres, parce qu'elles jouent le jeu et qui se retrouve en concurrence directe avec un YouTube qui lui s'affranchit de toutes les règles. Donc c'est aussi un service à rendre aux entreprises européennes d'avoir un cadre commun qui s'applique de la même manière à des services qui sont globalement similaires.
Jean-Marie Cavada, oui. Julien évoquait les droits voisins qui sont prévus dans ces directives. Alors, expliquez-nous un petit peu d'abord ce que c'est que des droits voisins dans le cadre de ces directives.
Je le dis dans un instant, je reviens sur l'idée d'accaparement abusif caractérisé par le mot vol que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est une question uniquement de partage des ressources. S'il n'y avait pas de ressources, personne ne réclamerait un partage. Mais la création artistique sous toutes ses formes en Europe, chaque année, c'est plus de 530 milliards d'euros. Vous m'entendez? Ça fait vivre 7 200 000 personnes, c'est-à-dire plus que l'automobile, plus que les télécoms réunis tous les deux. C'est pour ça que nous réclamons un partage dès l'instant qu'il y a activité commerciale. Sur les droits voisins, c'est une question extrêmement grave. Le droit voisin, c'est quelque chose de simple. Un éditeur de presse, il investit dans une entreprise de presse, comme les radios, comme les télés, comme la presse écrite, etc., pour fabriquer notamment, s'agissant de la presse, de l'information. Cette information, elle a un coût. Quand cette information, elle est agrégée quelque part, et qu'elle fait l'objet d'une recette commerciale par un agrégateur, eh bien, il est absolument indispensable que cet agrégateur partage la ressource qu'il a pu engranger avec du matériel qu'il n'a pas produit lui-même, qu'il a pris chez l'éditeur de presse. Et donc, c'est une question d'équité, vous voyez, de partage de ressources. Personne n'est contre les GAFA. Tout le monde est contre les monopoles abusifs et le non-partage. C'est ça, la philosophie. Parce que qu'est-ce qui va se passer, j'en termine, si jamais nous laissons faire, si jamais nous perdons cette affaire? C'est tout à fait simple. Il va y avoir une colonisation culturelle des pays membres de l'Union, parce que petit à petit, et la création et la presse vont se paupériser. Et c'est ça qui est dangereux. C'est un partage équitable que nous voulons.
Pascal Durand.
La situation, encore une fois, de Google, par exemple, ou de Yahoo Actualité, c'est d'essayer de collationner sur un sujet un certain nombre d'informations, sur lequel elle fait d'ailleurs une courte droit de citation qui est totalement autorisée et qui est absolument légale, et elle renvoie vers les sites qui sont à ce titre référencés et qui ont eux-mêmes leur propre rémunération. Quand on va sur le site, on a la publicité, quand on est sur le site de n'importe quel organe de presse français, où le site est privé, c'est-à-dire vous devez être abonné et vous payez, et effectivement vous n'aurez pas accès, et donc il n'y aura pas de détournement quoi que ce soit, ou c'est un site ouvert, et dans ce cas-là, il se rémunère lui aussi par la publicité et par le fait qu'on le pointe, ce site. La difficulté, c'est que le modèle économique de la presse, et là Jean-Marie Cavada a raison, mais ça n'est pas la directive qui va régler cette question-là. C'est que le modèle économique de la presse n'a pas intégré la question d'Internet. Et il avait un modèle économique qui était basé sur la vente papier et sur la publicité papier. Il n'a donc pas pris en compte les mêmes éléments. Enfin,
c'est un modèle économique qui évolue et certains réussissent aujourd'hui. Eh bien, quand on voit
notamment ceux qui sont sur
Le Figaro, Le Monde sont aujourd'hui des sites qui marchent très bien, qui sont rentables.
Et qui veulent être pointés par Google. Je signale quand même, et ça n'a pas échappé à aucun de mes deux interlocuteurs, que ce soir, Le Monde, grand quotidien historique français, a une page, partenariat qui s'appelle Google Partenaire et où ils travaillent avec, tout simplement parce que en Espagne et en Allemagne, et aussi bien Jean-Marie Cavada que Virginie Rosière le savent, en Allemagne et en Espagne, on a essayé de mettre un système où on bloquait, c'est-à-dire où on devait en amont, voilà, on obligeait, on rémunérait, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, les plus gros ont pu négocier des licences et même ils ont fait mieux. Les plus gros ont fait qu'il n'y avait pas de prix à payer. Parce qu'ils voulaient être référencés par Google et par Yahoo. En revanche, ils ne voulaient pas être référencés par les petits, parce que là, ça ne les intéressait pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce système s'est arrêté, tout simplement parce que Google et Yahoo ont dit, on trouve un accord sur la licence, c'est-à-dire en gros...
Non, ils n'ont pas voulu passer la licence.
Et les autres ont dit, si
parce
vous...
qu'ils ont refusé.
Parce qu'ils voulaient être référencés.
Vous avez vu le prix L'Aumône que Google a donné à El País.
Moi, ce que je voudrais, Jean-Marie, c'est que vous compreniez. Secondes. Attendez, juste je termine. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que dans le monde d'Internet, qui est un monde qui peut-être vous déplaît ou ne vous déplaît pas, ce n'est pas mon sujet, qui est une réalité pour des centaines de millions de personnes. Bien. C'est que les informations, les gens maintenant, ils vont taper sur les moteurs de recherche, que ce soit Google ou Yahoo, une information, par exemple, centrale nucléaire, budget, drone, et ils vont avoir, à ce moment-là, référencé un certain nombre d'articles sur le sujet auxquels ils doivent avoir accès. C'est ça, la liberté d'Internet. C'est comme ça que ça marche. Et tout système qui porterait atteinte à cela va bloquer...
Il faut partager les profits. Sur tous les autres sujets, vous dites ça, sur celui-là. C'est quand même étrange.
Les organes de presse se rémunèrent sur les clics qui sont...
Non, pas
Pascal Durand, attendez. On retourne au standard.
Ils sont aussi pillés par des agrégateurs qui doivent partager leurs recettes avec ceux qui leur fournissent le matériel.
On retourne au standard. Pascal Durand, s'il vous plaît, on retourne au standard. Priorité au 0145-247. Xavier, vous nous appelez de Paris. Bonsoir Xavier.
Bonsoir. Donc j'avais une question à poser pour élargir un peu le débat. C'était est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment sûr que le système de droit d'auteur est le meilleur moyen d'assurer une rémunération aux auteurs tout en permettant la diffusion de leurs œuvres? Je pense à ça parce que récemment il y a une initiative de la banque de la Bibliothèque nationale de France qui a été retoquée par la Cour de justice de l'Union européenne, qui visait à rendre disponibles sous format électronique des œuvres dites orphelines, c'est-à-dire des œuvres dont les droits d'auteur et les droits d'édition sont tellement dispersés qu'en fait on n'arrive pas vraiment à les situer. Et il y a tout un patrimoine comme ça du XXe siècle qui est devenu inaccessible. Internet, illégalement, est devenu une façon de retrouver ces informations, enfin ces objets culturels. Est-ce que on ne peut pas justement trouver un système qui permettent à la fois la rémunération et de garder cet accès-là, ce qui, je pense, n'est pas nécessairement le cas d'une couche de complexité supplémentaire dans la réglementation actuelle. Voilà, merci. J'ai essayé de faire court,
Merci Xavier. Virginie Rosière vous répond.
C'est une bonne question et c'est une très belle initiative. On a essayé d'ailleurs d'aménager la directive pour permettre d'ouvrir le cadre pour cette... Mais en fait, ça se sert du droit d'auteur. C'est justement parce qu'on permet à des diffuseurs de valoriser les œuvres qui sont aujourd'hui hors du commerce qu'on peut les remettre accessibles. Malheureusement, on n'a pas réussi sur le projet de mandat qui est là, mais c'est effectivement... Mais on voit bien que c'est aussi au travers justement de la capacité à avoir une valorisation de l'œuvre qu'on incite à sa diffusion. Donc au contraire, c'est justement un mécanisme qui se servait du droit d'auteur d'une manière qui n'est pas prise en compte dans ce mandat. Mais sur la presse, moi je voulais dire quelque chose quand même, parce qu'effectivement, on a eu des initiatives qui sont similaires à ce qu'on met en place dans l'article 11 en Allemagne et en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Google est allé au bras de fer et a dit « moi je refuse ». Vous voulez que je conclue un accord de licence pour vous diffuser? Mais moi, c'est pas grave, j'arrête de vous diffuser.
C'est ce qui s'est passé avec
Elle s'est passé,
en Espagne.
Ça s'est passé en Espagne,
Virginie Rosière. Donc la directive, il est prévu effectivement des accords de licence. Si la directive passe, si la loi européenne passe, et que Google, vous allez imposer des accords de licence à Google.
On va dire que Google, pour diffuser, doit conclure des accords de licence. Il a refusé de le faire à l'échelle nationale.
S'il passe par-dessus cet accord.
Après, on lui demande de respecter le droit européen. Mais en fait, justement, moi, c'est ça qui m'inquiète, parce qu'on a vraiment deux approches différentes aujourd'hui, qui coexistent sur Internet. N'en déplaise à Pascal, il n'y a pas un modèle d'Internet. Il y a effectivement une vision d'Internet qui continue à exister et qui est très belle, qui correspond aux idéaux du départ, où on est sur une philosophie de liberté, de partage, d'échange, et elle continue à exister, justement, au travers du libre, au travers des créatifs communs. Et ça, c'est encore une fois hors du champ d'application de cette directive. Donc les choses sont très claires, elles sont écrites noir sur blanc, n'en déplaise à M. Durand, dans la définition du champ d'application de la directive. Et donc on a bien pris en compte cette logique-là, justement, pour ne pas la toucher. Il y a aussi aujourd'hui une autre réalité, qui est celle que Internet est massivement investi par des plateformes qui sont en situation de monopole et qui aujourd'hui dictent leurs lois pour leurs bénéfices unique. C'est vrai en matière de droit d'auteur, mais c'est aussi vrai en matière de fiscalité, c'est vrai en matière de droit social, c'est vrai en matière du respect de tout type de législation. Et là, on a l'occasion pour l'Union européenne, quelque part, de reprendre le fil de sa souveraineté face aux plateformes du numérique. Ça sera vrai en matière de propriété intellectuelle, mais j'espère que ce sera vrai aussi dans d'autres domaines à l'avenir. Et revenons à la presse. Moi, je vois qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas du tout été dans cette logique d'accord de licence, on était sur du volontariat. Google finance des titres de presse, et qu'a fait Google? Il a envoyé à tous les titres de presse qu'il finance sur une base volontaire, l'argumentaire contre l'article 11 et l'article 13 en leur demandant de le reprendre dans leur publication. Ce n'est pas vraiment ma conception d'une presse indépendante aujourd'hui, donc je préfère qu'on soit sur une base de contrat de licence qui soit demandé par la loi et qui ne soit pas uniquement sur une base volontaire. Parce que, comme c'est le cas souvent, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère.
Oui, Pascal Durand. C'est bien l'accordaire. C'est la réalité. La réalité, et je répète, n'est pas du tout celle-ci. La réalité, c'est que le moteur de recherche donne des références, et ces références, un certain nombre de gens vont aller cliquer dessus et les voir. L'argent, le gain qui est rémunéré, la rémunération qui est faite sur le moteur de recherche est d'abord et avant tout le référencement. C'est ça le travail que fait Google ou Yahoo. C'est pour ça qu'il est rémunéré. Attendez, je termine. Franchement, je suis déjà tout seul contre... C'est compliqué.
On laisse terminer Pascal Durand.
La rémunération, c'est le travail qui a été fait. C'est le moteur de recherche. C'est toute l'intelligence artificielle qui est derrière pour essayer effectivement d'aller trouver toutes les informations qui vous sont nécessaires. Mais après, quand vous êtes renvoyé sur un site, quand vous avez l'information, ce site peut et se rémunère sur la publicité que lui-même vous envoie, parce que je suis désolé, quand je vais sur le site, je sais pas, moi, du JDD, j'ai tout de suite de la publicité qui arrive, et ça rémunère le site. Donc il y a un accord qui est un accord de liberté commune. C'est-à-dire que Google ou Yahoo ou les autres référencent, et derrière on renvoie sur le lien, et le lien permet la rémunération. Après, moi je vais vous dire, si effectivement les journalistes, comme un certain nombre, parce qu'on nous dit tout le temps la rémunération des auteurs, etc., la réalité, c'est que ce texte, il est d'abord et avant tout destiné à permettre aux éditeurs d'essayer de gagner un peu plus, les plus gros, je répète, les plus gros, pas les plus petits, les journalistes. Il n'y a aucune rémunération, sauf si l'organe de presse ne le prévoit, il n'y a aucune rémunération qui vient sur les journalistes sur l'utilisation et la lecture de leur article. Et vous le savez mieux que quiconque, M. Cavada.
Jean-Marie Cavada,
vous le savez mieux. Oui, bien,
alors, Jean-Marie Cavada, 20 secondes pour conclure, Jean-Marie Cavada. 20 secondes pour conclure, s'il vous plaît.
Juste ça. Dès qu'il aura fini de parler, je prendrai mes
arguments. Pascal Durand.
Premièrement, le référencement, personne n'irait sur ces agrégateurs s'il n'y avait pas une matière à consulter. On n'irait pas pour aller là-dessus. Premièrement. Deuxièmement, les entreprises de presse, oui. si elles gagnent quelque chose, elles ont des syndicats à l'intérieur qui négocient avec. C'est déjà le cas. Ça a été le cas à l'AFP, c'est le cas dans toutes. C'est le cas dans toutes les entreprises.
Jean-Marie parce que Cavada, les syndicats que... de journalistes,
les syndicats de journalistes ont un pouvoir absolu. D'ailleurs, ils ont exprimé récemment leur accord.
On arrive au terme de cette émission. Merci à tous. On arrive au terme de cette émission. À la réalisation, Stéphane Combe, assisté de Pierre Goff. Et derrière les manettes, Ludovic Asselot et Michel Bézikian. Dans quelques instants, il sera 20h sur France Inter.